Mais merci d'être là pour cette nouvelle rencontre que j'ai aujourd'hui dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Bonjour France Benjamin.
Bonjour Cyril.
Député de Vio, président de vice-président de l'Assemblée nationale. Merci d'avoir accepté qu'on ait cet échange. De tous les élus noirs en activité dans la province du Québec, Monsieur le député, vous êtes le plus ancien. En activité. Hein. C'est toujours bon de le mentionner parce que la première élection, c'est en 2009. D'abord sur le palier municipal, puis aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Comment ça va?
Mais écoute, ça va très bien. C'est toujours un bonheur. Très content de te voir, Cyril, et de partager ces quelques instants avec toi. Merci de me rappeler que je suis peut-être le plus vieux en activité.
Non, mais je suis certain de ça.
Et merci aussi de ne pas avoir fait remonter jusqu'à 1998, qui est la date de ma première élection scolaire.
Oui, c'est effectivement.
Donc, il y a ça aussi. Mm-hmm. Donc, c'est peut-être signe de quelque chose, peut-être... Et là, j'ai pas l'habitude, mais je vais me faire une petite fleur. Mm-hmm. C'est un signe de peut-être de confiance. Des électrices et des électeurs. En tout premier lieu, celles et ceux de Rivière-des-Prairies, puisque la première fois que je suis devenu élu scolaire, c'était à Rivière-des-Prairies comme commissaire scolaire. Et les gens m'ont fait confiance à trois reprises. Et par la suite, Saint-Michel, donc qui m'a fait confiance comme conseiller municipal dans un premier temps et maintenant comme député à l'Assemblée nationale. Mmh. Donc, signe de confiance, mais la confiance se mérite au quotidien. Donc, et ça, je ne l'ai jamais oublié. Mmh. À chaque élection, à chaque réélection, je me suis toujours rappelé que la confiance, ça se mérite au quotidien. Donc, il faut jamais cesser, jamais baisser les bras quand vient le temps de travailler pour les femmes et les hommes qui t'ont fait confiance pour te faire élire, pour les représenter. Mmh. C'est un privilège d'être élu.
Le nom France Benjamin est rattaché, mais j'ai presque envie de dire viscéralement, à Saint-Michel. Pourquoi ?
Je me suis toujours présenté comme un petit gars de Saint-Michel. Mmh. Saint-Michel, c'est le quartier qui a accueilli ma famille et moi, mes parents et moi, lorsque nous sommes arrivés ici au Québec. C'est un quartier qui m'a beaucoup donné en termes d'amis, en termes de découverte de la diversité québécoise. La diversité québécoise, c'est à Saint-Michel que je l'ai découverte dans un premier temps. Et j'ai toujours voulu redonner à ce quartier-là ce qu'il m'a donné. Et évidemment, au fil des ans, il y a des batailles qu'on a menées pour Saint-Michel avec les Michelloises et les Michellois. Nous avons fait des gains pour Saint-Michel. Donc, c'est un peu normal que cette image-là, effectivement, il s'est rattaché. Et j'en suis très fier, d'ailleurs. Mmh,
mmh. Alors, quand j'ai parlé de... je suis remonté à 2009 en mentionnant que tu es quand même l'élu noir le plus ancien en activité. C'était à dessein. C'était à dessein parce que 2009, 2024, aujourd'hui, ça fait quand même tout un parcours. Quoi le secret de ta longévité, en dehors de la confiance de tes commettants de Saint-Michel et autres?
Je dirais peut-être deux ou trois choses. La première, c'est la constance de la présence. Mmh. La deuxième, c'est l'authenticité. Et la troisième, c'est l'intégrité. Et les trois vont ensemble. Quand les gens le savent, quand tu es présent pour leur soutirer un vote, les gens ne sont pas dupes. Mais les gens savent reconnaître aussi quand tu es là, quand tu es présent, pour les bonnes raisons, parce que tu es avec eux, tu fais partie de la famille, tu es une partie de ces gens-là. Mmh. Donc, moi, c'était pour moi très important, et pas comme conseiller municipal seulement, comme député aussi. C'est toujours important pour moi d'avoir cette qualité de présence dans la vie des gens, auprès des gens, mais aussi être authentique, être vrai.
Alors, on est dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, on a cet entretien en ce moment. Et quand les gens regardent ton parcours, aujourd'hui, on va à vice-président de l'Assemblée nationale, mais il y a d'abord eu, après la commission scolaire, élu municipal, tu deviens, en 2013, le tout premier président du conseil municipal, tout premier élu noir président du conseil municipal. Mmh. Avec le recul aujourd'hui, quand tu regardes ça, tu te dis, qu'est-ce que tu te dis?
J'ai toujours tenté d'inscrire ma trajectoire politique dans celle de toute une communauté. Mmh. Dans la mesure où, très tôt, avant même d'être élu, j'ai été un militant, un membre des communautés noires. Et j'ai mené des combats avec d'autres au nom des communautés noires. Mm-hmm. Je pense entre autres au premier groupe de travail sur le profilage racial. C'était déjà en 2003. Mm-hmm. Et sans compter d'autres combats qu'on a menés ensemble.
Même au sein du CIM, le Conseil interculturel de Montréal.
Voilà. Et en ce sens, je me dis que des réussites individuelles, nous en avons. Nous en avons beaucoup dans les communautés noires. Mm-hmm. On peut commencer par citer un tel qui est à telle position, un tel qui est à telle position. Mais ce qui est pour moi beaucoup plus important, c'est la réussite collective. Mm-hmm. C'est comment peut-on arriver comme communauté à faire du succès d'un citoyen, d'une citoyenne, d'un citoyen ou d'une citoyenne, membre des communautés noires, le succès de toute une collectivité. Comment ce succès-là peut avoir des retombées sur la collectivité. Et c'est là que ça devient pour moi vachement intéressant. Mmh. Lorsqu'on connaît le parcours des communautés noires en Amérique du Nord et particulièrement au Québec et au Canada. Et
est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as réfléchi? Est-ce que tu vois des pistes de solutions?
Je vois quelques pistes de solutions, deux ou trois pistes. Je pense que c'est un travail de longue haleine.
Okay.
Nous partons de loin. Il faut que nous en soyons très, très conscients. Nous ne sommes pas la communauté noire, nous sommes les communautés noires. Et ça, c'est un paramètre qu'il faut en tenir compte aussi. Mmh. Avec chacun sa trajectoire, chacun ses enjeux. Mais nous sommes dans le même bateau. Ça aussi. Et par le fait que nous soyons dans le même bateau, c'est là que nous devons donner des outils par l'éducation, maintenir de manière permanente cette conversation. Ça ne peut pas être seulement qu'une conversation au mois de février, mm-hmm. dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. C'est une conversation perpétuelle, c'est-à-dire 12 mois par année, il faut maintenir les canaux ouverts pour avancer ensemble. Prenons un dossier par exemple, l'immigration. Mm-hmm. Nous avons, comme communauté noire, des enjeux qui nous forcent à travailler ensemble sur les enjeux migratoires, que ce soit par rapport au fédéral ou au provincial. Le Québec accueille à chaque année des centaines, voire des milliers d'étudiants de la francophonie. Mmh. On connaît la problématique d'accès au visa pour des membres des communautés noires venant appartenant à l'Afrique francophone. Ce sont des enjeux qui doivent nous interpeller tous.
Si tu permets, je vais t'interrompre là-dessus parce que là, tu viens de lever, de poser sur la table un point très important. L'enjeu de l'immigration. Mm-hmm. Et tu dis qu'il faut travailler de manière collective pour essayer d'apporter des solutions et réfléchir. Est-ce que vous le faites déjà au niveau politique?
Absolument. Moi, j'appartiens à un caucus qui est le caucus du Parti libéral du Québec, mm-hmm. où nous débattons de ces enjeux-là. Bien sûr, il y a un porte-parole. Dans notre cas, nous...
Ça, c'est le caucus du Parti libéral, François. Absolument. Si tu permets, mais un caucus politique noir. Est-ce que... Parce que on parlait de travailler collectivement pour
absolument.
Essayer de résoudre certains enjeux.
Par exemple, lors de la dernière rencontre du Black Caucus, mm-hmm. fédéral qui s'est tenu à Ottawa, c'est un enjeu que personnellement j'ai amené sur la table.
Okay.
J'ai amené sur la table cette double problématique de la question migratoire. Non seulement comme caucus, Black Caucus, nous avons à regarder comment sont traités les membres des communautés noires qui arrivent au Canada ou qui n'arrivent pas à arriver au Canada, mm-hmm. parce que justement il y a des biais discriminatoires par rapport à l'accès au visa. Mais j'ai été encore plus loin. Notamment en interpellant nos députés fédéraux qui sont autour de la table, parce que les députés fédéraux ont un mot à dire, mm-hmm. sur les enjeux de compétences internationales ou étrangères, sur le traitement réservé dans plusieurs pays européens et même dans le Proche-Orient par rapport aux membres des communautés noires dans leur déplacement. Je ne vais pas refaire l'histoire, mais nous savons ce qui arrive, par exemple, à plusieurs membres des communautés de l'Afrique subsaharienne qui essaient d'arriver en Europe, mais qui passent par des pays comme la Libye, mmh. comme l'Algérie, et le Maroc, etc. Donc, il y a des enjeux véritables par rapport à ces personnes-là. Donc, j'ai sensibilisé nos collègues à ce niveau-là.
J'ai la prétention de dire que je te suis depuis quand même un bon moment, ouais. dans ton parcours politique et il y a quelque chose qui m'a toujours intrigué. En entrevue, dans des sorties publiques, tu vas dire un certain nombre de choses. Mais quand tu étais au municipal, à un moment donné, on t'a mis dans la position du président du conseil municipal. Tu arrives à l'Assemblée aujourd'hui où il y a moins, je pense qu'aujourd'hui on compte quoi, trois, même pas, une, deux, on va dire élus noirs. Mm-hmm. Tu es dans la position de vice-président de l'Assemblée nationale, mm-hmm. des positions qui sont automatiquement des positions de neutralité. Mm-hmm. Est-ce que nous ne sommes pas en tant que communauté noire mm-hmm. En train de perdre une voix qui aurait pu venir sur la place publique et dire et mettre en avant un certain nombre de choses?
J'aime beaucoup la question. J'aime énormément la question. Mais j'ai eu à réfléchir là-dessus. Mm. Et je suis en train de voir à créer des passerelles, des canaux pour pouvoir continuer à intervenir sur la scène publique. Mmh. Évidemment, mon devoir de réserve, c'est un lien avec l'Assemblée nationale.
Exactement.
Mais une fois en circonscription, une fois dans la région de Montréal, je peux intervenir mmh. sur n'importe quel dossier. Moi, personnellement, les
mais
gens...
Mais tu restes me... vice-président de l'Assemblée.
Bien
donc,
sûr,
oui.
absolument. Mmh. Mais les gens qui me connaissent savent que je n'ai jamais été chiche sur mes opinions. Je les assume, je les porte, n'en déplaise à mes autres collègues. Mmh. Et j'ai des convictions profondes en matière de justice sociale, en matière d'inclusion, en matière d'égalité, en matière de droit de la personne. Et ces convictions-là, avant la politique, je les portais. Mm-hmm. Je vais continuer à les porter. Mais, tu as bien dit, nous sommes plusieurs collègues et je dois parler d'une des collègues. Je suis heureux de voir tous mes collègues membres des communautés noires. Mais il y en a une en particulier qui m'éblouit à chaque fois qu'elle prend la parole, mm-hmm. c'est Madouanika Kané, mm-hmm. qui est la députée de Bourassa Sauvé, mm-hmm. Qui intervient de manière très éloquente et de manière très forte sur des enjeux qui nous concernent tous. Mmh. Et ça, nous devons en être fiers. Je ne rougis pas non plus sur plusieurs positions de Lionel Carman aussi, qui fait un bon travail comme ministre des Services sociaux.
Un peu plus discret.
Un peu plus discret, évidemment. Ouais. Mmh. Mais cependant, ce que je souhaite, c'est que tous mes collègues des communautés noires continuent à porter les enjeux de nos communautés, mmh. et à travers les dossiers qu'ils portent, qu'ils ont apportés à l'Assemblée nationale. Mmh.
Lorsque tu accèdes à la vice-présidence de l'Assemblée nationale, c'est quand même ton accession, j'ai envie de dire, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a eu pas mal de remous. Était-ce si important pour toi ou il fallait que tu le fasses?
Fort de 4 ans d'expérience au sein de la présidence du conseil municipal, fort de 4 ans d'expérience à l'Assemblée nationale du Québec, sachant ce que je pouvais apporter, c'est pas que non qu'il fallait que je le fasse. Moi, j'ai été proposé, je n'ai pas sollicité cette position-là. Mmh. J'ai été proposé. Et cette proposition-là, quand elle m'a été faite, convenait, je l'ai acceptée, je l'ai dit oui. Un oui, c'est un oui. Donc, j'ai dit oui que j'avais accepté cette proposition-là.
À aucun moment, lorsque voilà, ça commençait à faire des remous, on ne parlait que de toi, ah, il bloque le travail, il bloque les avancées, est-ce qu'à aucun moment tu t'es dit, OK, on va laisser faire, je vais rester député et te dire non, je vais me décourager?
Non, moi, j'ai des valeurs, mais j'ai des principes mmh. aussi. Et j'ai toujours cru qu'il fallait respecter les principes mmh. qu'on avait. Et quand on a un principe, et surtout quand on a des valeurs, il faut les défendre. Mmh. Et une des grandes valeurs pour moi qui est très importante, c'est l'intégrité. Un des grands principes que j'ai, c'est le sens de la parole donnée. Pour ceci étant dit, non, je continue à travailler avec tous mes collègues pour faire avancer les dossiers des gens de la circonscription de Viau, mais je n'étais pas dans une guéguerre d'ego. Mmh. Je n'étais pas là-dedans. J'étais plutôt dans une question de principe. Mmh.
Tu le sais, tu as toujours représenté quand même quelque chose. Comme je dis, tu portes sur tes épaules la communauté. Donc, on voit, on te voit aller. Et lorsque c'est arrivé, il est évident qu'au sein des communautés noires, les gens se sont dit, mais qu'est-ce qui arrive pour dire les choses comme mmh. elles sont? C'était Dominique Anglade qui quittait la présidence du parti, la chefferie du parti. Est-ce que ça, ce genre de choses, traverse l'esprit d'un député à tout?
Je n'ai jamais oublié
d'où tu viens.
D'où je viens, ouais. Absolument. Mmh. Et ce que je dois porter comme image, comme message, par rapport à ma présence à n'importe quelle fonction publique, mmh. que ce soit quand j'étais commissaire scolaire, conseiller municipal ou député à l'Assemblée nationale. Je suis très conscient que par ma présence, mais pas seulement la mienne, la présence d'autres aussi, la présence, j'ai parlé de Madouani Kakadé tout à l'heure, on peut parler de Christopher Skeet aussi. Leur présence sont des indicateurs, sont des messages puissants à l'endroit des jeunes de nos communautés. Et c'est pas seulement notre présence qui doivent être des indicateurs, notre trajectoire aussi, davantage. C'est-à-dire ce que nous allons, ce que nous pouvons réaliser ou ce que nous ne pouvons pas réaliser sont des messages de mobilisation ou de démobilisation des membres des communautés.
François Benjamin, quand on entend aujourd'hui le gouvernement parler d'immigration, ce lien entre immigration, déclin du français, étudiants étrangers, crise du logement, c'est-à-dire que d'un côté, on dit le Québec a besoin d'immigrants. De l'autre côté, on vous dit qu'ils sont la cause de tous les malheurs qui arrivent. Que dit le Parti libéral du Québec?
Ben, le Parti libéral du Québec est très loquace sur ces enjeux-là. Je pense entre autres à mon collègue André Morin, qui est député de l'Acadie, qui a fait une sortie pour rappeler la ministre de l'Immigration à l'ordre sur les enjeux relatifs à l'accueil, à la francisation des immigrants. Le gouvernement, le rappelait-il dans sa déclaration, a mis en place Francisation Québec. Francisation Québec qui se voulait être une instance visant à faciliter la francisation d'une très grande majorité des personnes qui arrivent au Québec. Mais malheureusement, c'est une instance qui n'a pas donné les résultats escomptés. En fait, ce qu'il faut, le paradigme dans lequel il faut sortir absolument, c'est le paradigme de l'immigrant qui a le dos large. L'immigrant a toujours le dos large. On lui fait porter tous les maux de la société. Pour nous, l'immigration est une richesse. Au-delà de dire, d'affirmer que l'immigration est une richesse, c'est comment on l'articule.
Okay.
Et on l'a vu très bien au cours des dernières semaines, la position unique du Parti libéral du Québec sur l'accueil du nombre d'immigrants. Et Marc Tanguay a été très clair là-dessus. Moi, je ne fais plus de débat sur le nombre qu'on peut accueillir. Maintenant, le débat que je vais faire, c'est quels sont les moyens que nous mettons en place pour accueillir les gens dont on a besoin, puisque dans toutes les régions du Québec, lorsqu'on se promène, pas seulement à Montréal, dans toutes les régions du Québec, ce que les employeurs nous disent, il y a des employeurs qui sont en train de fermer. Il y a des hôtels qui ferment des étages. Il y a des restaurants qui ferment leurs portes parce qu'il y a pénurie de la main-d'œuvre et c'est encore un grand besoin. Donc nous avons, comme société, et nous avons les moyens, les capacités de développer les ressources dont nous avons besoin pour mieux accueillir, mieux franciser, mieux intégrer les personnes que nous voulons.
Tu es député d'une circonscription comme Viau, tu as présenté Viau en disant, ben, justement, quand on parle de Viau, on parle diversité. Comment ça se passe dans cette circonscription?
Sur le plan de la langue française?
De la langue française.
Ah ben écoute, moi, quand je circule dans la circonscription de Viau, ça se passe en français, dans Viau.
Et pourtant, il y a des gens qui viennent de partout.
Absolument, bien sûr. Et on a à peu près une cinquantaine de communautés. Mais on l'a toujours dit, nous, au Parti libéral du Québec. La langue parlée à la maison, ça ne concerne pas l'État. L'État ne doit pas s'immiscer dans les salons, dans les cuisines des gens, voire dans leur chambre à coucher, pour savoir quelle langue ils parlent.
Pour nous, le français, libéral, c'est à l'extérieur.
L'espace public. Et dans l'espace public, c'est-à-dire pour moi, quand je vais dans les restaurants, dans les dépanneurs, dans les casse-côtes, dans les magasins de la circonscription de Viau, je suis toujours accueilli en français. Et ça, j'en suis très fier et très heureux. Mais cependant, nous devons continuer à faire plus d'efforts. Par exemple, un des chantiers qu'il nous faut mettre plus de ressources, c'est au niveau de la francisation en entreprise, par exemple. Quand des personnes arrivent, vous savez...
Est-ce que c'est plus de sous qui est la solution?
Ça prend plus de sous, ça prend plus de moyens. Ça prend aussi de avoir les bonnes cibles aussi. Quand on cible de manière tout azimut tout le monde, quand on stigmatise des gens, c'est pas une façon gagnante de faire de Montréal une métropole francophone. Il faut sortir de cette dynamique de la stigmatisation de l'immigrant. Il faut en sortir absolument. Il faut faire de chaque personne qui arrive ici un allié du fait français. Et comment faire un allié du fait français? C'est en allant à la rencontre de cette personne-là. C'est en lui proposant les moyens, les ressources dont il a besoin pour pouvoir apprendre le français. Moi, je ne connais pas, ça fait des décennies que je vis au Québec, je n'ai jamais rencontré un immigrant qui me dit « Écoutez, moi, je veux rien savoir du français. Par contre, j'ai déjà rencontré des gens qui me disent « J'aurais bien aimé apprendre, mais à cause de mon temps de travail, je travaille 40 heures, 50 heures par semaine, j'ai pas le temps. » J'ai déjà rencontré des gens comme ça. Alors, voilà. Il faut, quand on sort de la stigmatisation, on rentre dans une nouvelle dynamique, c'est-à-dire celle de l'écoute, celle de l'empathie. Donc, à ce moment-là, on peut identifier véritablement les vrais moyens, les vraies passerelles pour pouvoir accompagner les gens qu'on veut franciser.
Je reviens au temps dans la politique. De manière globale, l'intégration, l'inclusion. En 2009-2023, lorsque tu regardes le rétroviseur 2009-2024, on est déjà en 2024, est-ce que les choses se sont améliorées ou elles se sont dégradées?
Ça dépend sur quel front. Par exemple, si je regarde sur le front de la représentation politique, je suis très heureux de voir que nous sommes membres des communautés noires de plus en plus nombreux à briguer le suffrage, à être élus, que ce soit sur le palier municipal, sur le palier provincial ou sur le palier fédéral. Je salue cette belle avancée qui a été faite au Québec lors des dernières élections municipales, donc avec une belle représentation des communautés noires, pas seulement à Montréal, mais à Sherbrooke, à Longueuil, à Laval. Donc, on voit une présence des communautés noires qui s'est manifestée par la présence des élus issus de ces communautés-là. Cependant, sous les enjeux qui touchent les communautés noires dans le quotidien, dans le day-to-day, passez-moi l'expression, nous avons encore des avancées à faire. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la crise du logement. La crise du logement frappe surtout les populations, les communautés les plus vulnérables, défavorisées. Et les statistiques nous confirment que les membres des communautés noires sont très frappés par la crise du logement. Encore la semaine dernière, on découvrait avec effroi l'enjeu de l'accès au logement pour des locataires issus des communautés noires. Il y a encore des personnes, membres des communautés noires, qui se font dire non pour avoir accès à un appartement à cause de la couleur de leur peau. Et ça, c'est une lutte contre le racisme à finir. Ces enjeux-là sont importants. Les questions d'accès à l'emploi. On le sait toujours lorsqu'il y a des crises économiques, lorsqu'il y a inflation, lorsqu'il y a perte d'emploi, lorsqu'il y a augmentation du taux de chômage, c'est toujours le principe du last in, first out. Donc, c'est-à-dire, le dernier qui est rentré est le premier qui part.
Qui doit partir.
Alors, il nous faut être vigilants, membres des communautés noires, quand on voit le taux de chômage augmenter, de regarder particulièrement dans les communautés noires l'impact majeur que ça va avoir. Et je parle de l'accès à l'emploi, mais c'est sans parler, je pourrais parler aussi à la promotion lorsqu'on est en emploi. Combien parfois, il est souvent fort difficile, on voit nos collègues blancs être promus, des collègues qui sont arrivés après nous, nous dépasser en termes de promotion, parce que justement, c'est des enjeux de discrimination.
La compétence égale, voire parfois supérieure.
Voilà. Et il y a d'autres enjeux encore. Un enjeu que la pandémie, par exemple, nous a révélé pour l'ensemble de la société, je crois, mais pour nous, de manière accrue, c'est l'enjeu de la santé mentale. C'est l'enjeu de la santé mentale qui nous frappe énormément parce que c'est un enjeu qui a été pendant longtemps, pas pour nous seulement, mais particulièrement pour nous, un enjeu tabou. Donc, et cet enjeu-là nous frappe. Et il nous faudra, au cours des prochaines années, développer des ressources, développer des moyens adaptés à nos réalités pour pouvoir y répondre.
Alors, vice-président de l'Assemblée nationale, à l'heure actuelle, on sait qu'on a une présidente qui est Nathalie Roy, donc... quand elle ne préside pas, elle peut demander à l'un de ses vice ou l'une de ses vice-présidentes de présider. Mais quand il ne t'est pas demandé de présider, vice-président de l'Assemblée nationale, quels sont les dossiers que Franz Benjamin, parce que j'imagine qu'il a quand même un certain nombre de dossiers dont il a la charge, quels sont les dossiers du vice-président Franz Benjamin?
J'aimerais peut-être rappeler qu'avant même d'être vice-président de l'Assemblée nationale, je suis député de Viau. Donc je continue à chaque jour, à défendre les intérêts de la circonscription de Viau. Ça, c'est pour moi, c'est très important. Mais en dehors de cet horaire qui est partagé par la présidente et mes collègues vice-présidents, donc sur la présidence de l'Assemblée nationale, de ce qui se passe au Salon Bleu, nous avons des responsabilités aussi, d'autres quelques responsabilités ad hoc. Par exemple, une des responsabilités que j'ai, je suis le président du comité zéro harcèlement. Donc, okay. Tous les enjeux en matière d'harcèlement, tous les types, toutes les formes d'harcèlement à l'Assemblée nationale sont sous la responsabilité du comité que je préside. Mmh. C'est un comité qui réunit des élus de tous les partis. Donc, on a des rencontres de manière statutaire pour travailler. On a une politique en matière de la prévention et de la lutte contre le harcèlement à l'Assemblée nationale. Donc, je suis président de ce comité-là. Je suis aussi le président du comité du prix du livre politique de l'Assemblée nationale, qui est, les gens ne le savent peut-être pas, mais un des plus grands prix littéraires au Québec, c'est le prix du livre politique. Okay. C'est un prix qui vient récompenser à chaque année les meilleurs livres parus, que ce soit en matière politique, en matière économique, sociologie, etc.
Okay.
C'est des essais que ce prix-là récompense. Mm-hmm. Et évidemment, vice-président aussi représente aussi le Québec aussi. Dans le cadre des ententes des missions parlementaires. Donc, il m'arrive d'aller représenter le Québec sur des missions parlementaires à l'étranger. Puisque le Québec a des ententes multilatérales ou bilatérales, que ce soit avec le Commonwealth, la francophonie, et les parlementaires de l'Amérique latine et du Sud, les parlementaires américains et les parlementaires canadiens, évidemment. Donc, le rôle d'un vice-président, c'est d'aller participer dans ces missions-là parlementaires aussi. Je siège aussi au bureau de l'Assemblée nationale. Le bureau de l'Assemblée nationale, c'est un bureau qui réunit la présidente de l'Assemblée nationale, les vice-présidents, ainsi que les whips des partis représentés pour la gestion de toutes les affaires administratives et politiques de l'Assemblée nationale. C'est un bureau important et doté d'un très grand budget. Et d'ailleurs, un des postes budgétaires qui est en cours actuellement, c'est la rénovation, parce qu'il y a une grande rénovation en cours à l'Assemblée nationale. Mmh. Donc voilà, on ne chôme pas.
Oui.
Et aussi, évidemment, mon rôle aussi, au nom de la présidence, c'est par exemple, des fois, d'accueillir des délégations, d'accueillir des visiteurs étrangers à l'Assemblée nationale. C'est aussi d'agir comme hôte de l'Assemblée nationale, dans certains cas, par exemple, pour prononcer des allocutions, des choses comme ça. Mmh.
Je voudrais qu'on termine avec quelque chose qui t'est très cher. La persévérance scolaire, qui est vraiment... Toi, c'est vraiment quelque chose de très important et qui a donc amené à créer, il y a quelques années déjà de cela, le fonds 1804. Pourquoi cet enjeu est venu, pour utiliser une expression un peu triviale, pourquoi est venu te chercher?
J'ai grandi dans un quartier, le quartier Saint-Michel. Je dis souvent, à part d'avoir eu des parents extraordinaires, un père et une mère aimantes, dans le cas de ma mère, aimant dans le cas de mon père. Mon père est encore vivant, un père extraordinaire. C'est l'éducation qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et j'ai grandi dans un quartier où j'ai vu des jeunes du quartier Saint-Michel réussir, mais d'autres aussi, malheureusement, qui ont eu beaucoup plus de difficultés, qui n'ont échoué. Ou du moins, qui ont eu beaucoup de difficultés, qui ont eu à persévérer. Donc, lorsqu'un beau matin des années 2000... il y a eu cette rencontre au ministère de l'Éducation où le ministère de l'Éducation nous a invités, quelques membres de la communauté, avec suite à une recherche qui a été menée par l'Université de Montréal sur la réussite scolaire des jeunes Québécois et qu'on s'est aperçu de cette réalité pour nous qui n'était pas une fatalité, de la difficulté accrue qu'ont par exemple un groupe de jeunes en particulier, soit les jeunes des communautés noires issues de l'immigration, précision importante, loin de s'abattre, on s'est dit, comment faire de cet enjeu-là, de cette fatalité-là, un succès collectif, une entreprise collective. Je parlais tout à l'heure de l'importance des réussites collectives. Pour moi, aujourd'hui, le Fonds 1804 pour la persévérance scolaire est une réussite collective. On s'est mis ensemble, Édouard Stacon en premier, avec d'autres, je pense à Pierre-Gérald Jean, Robert Durandis, Neil Armand, pour ne citer que cela, avec d'autres membres de la collectivité, on s'est dit, on va mettre en place une initiative visant à soutenir la persévérance dans notre communauté, mais pas seulement dans notre communauté, mais dans l'ensemble de la société. Et 10 ans plus tard, puisque le fonds célèbre cette année, c'est 10 ans, on mesure à quel point que cette réponse-là, qui a été une réponse collective, est saluée par l'ensemble de la société québécoise, mais aussi a permis le nombre de témoignages que j'ai eus de jeunes qui ont été des boursiers ou des boursières du fonds ou qui ont bénéficié d'un programme particulier de fond et qui aujourd'hui cheminent, ont cheminé dans la société et se réalisent, pour moi, je me dis que ça valait la peine voilà, d'apporter cette réponse collective à cet enjeu que nous avions.
Il y a beaucoup de fierté.
Oui, absolument. Énormément de fierté, mais surtout, 10 ans, c'est vite fait. Mm-hmm. Je le mesure avec les 10 ans du fond aujourd'hui. Mais on est dans une réflexion actuellement au fond pour dire comment s'assurer de la pérennité du fond. Pas seulement pour les 10 prochaines années, mais pour les 20, les 30, les 40 prochaines années. Et on est en train de travailler à élever une nouvelle génération. Une génération, parce que c'est ça aussi l'enjeu qu'on a dans la communauté, dans nos communautés, l'enjeu de la transmission. Il faut élever une nouvelle génération de femmes et d'hommes qui vont s'engager auprès de leur communauté pour l'ensemble de la collectivité.
C'est le même engagement, en fond 1804 pour la persévérance scolaire, mais qui va aussi faire naître des initiatives comme le sommet des jeunes afro, l'Académie Toussaint Mandela. Toutes ces initiatives-là, donc collectives, ça c'est une fierté pour toi.
Ah oui, absolument. C'est une fierté parce que il est facile d'étaler son CV et de dire, écoutez, moi, je suis ceci, je suis cela, je suis monsieur un tel, je suis madame un tel, j'ai fait telle étude, j'ai siégé ici, j'ai été élu ici. C'est
facile.
C'est facile.
Oui.
En fait, je le dis que c'est facile parce que...
parce que tu le fais.
Mais ce qui est plus payant collectivement, c'est ce que nous arrivons en nous mettant autour d'une même table avec d'autres à dire réfléchissons ensemble, agissons ensemble, travaillons ensemble dans un but commun et le seul but qui doit nous intéresser, comment faire avancer nos communautés.
Avant que je te dise merci, Franz, une question, je reviens aux politiques qui est partie de commissaire scolaire, conseil municipal, président du conseil municipal, député provincial aujourd'hui, vice-président de l'Assemblée nationale, mais toujours, ça c'est mon regard à moi, toujours, j'ai quasiment envie de dire, sous le radar, sans esclandre particulière, constant depuis 2009, quelle est l'ambition politique de Franz Benjamin?
C'est une question éminemment politique à laquelle la réponse sera tout autant politique.
Politique.
Je te dirais que... je vais te donner un exemple. J'étais en commission parlementaire, la commission de l'administration publique, où je suis intervenu pour parler de la circonscription de Viau. Et j'ai eu à lire un extrait d'un message qui m'a été envoyé, un message de remerciement qui m'a été envoyé par un citoyen de la circonscription cette semaine pour souligner mon travail et souligner le travail de mon équipe aussi en circonscription. Et ça, c'est ma plus grande fierté quand je me réveille à chaque jour, que je me dise, est-ce que j'ai réussi à changer la vie, à aider quelqu'un à se réaliser dans sa trajectoire, dans ses enjeux? Je te dirais que c'est ma plus grande fierté, c'est ma plus grande ambition aussi.
C'est pour ça que tu aimes la politique.
Absolument. C'est-à-dire, je suis là, je suis au service des gens, et ma plus grande ambition aujourd'hui, fort du mandat qui m'a été confié en 2022 par les gens de la circonscription de Viau, c'est de continuer à les servir au meilleur de mes compétences et de mes sensibilités.
Il y a pourtant beaucoup plus du côté de tes consoeurs, donc je vais parler plus du côté des consoeurs, beaucoup de backlash, pour utiliser une expression familière, qui s'engagent dans, ben, pas seulement la politique, dans l'espace public déjà, mais surtout dans la politique. On ne t'a jamais entendu vraiment te plaindre de ce que tu peux recevoir de négativité. Comment tu fais pour passer à travers? Quels conseils donner à celles qui sont déjà là, mais à celles et ceux surtout qui veulent s'engager, mais qui voient ce qui arrive, notamment à ceux qui aspirent dans les communautés noires à s'engager dans le domaine politique, qu'est-ce que tu leur dis?
Premièrement, la politique en soi, nonobstant nos origines, c'est un terrain de jeu glissant et où ça peut être assez brutal comme espace de jeu. Ça, il faut en être très conscient. Il faut être constamment sous ses gardes. Il faut aussi avoir multiplié ses ancrages. Et moi, je n'ai jamais antagonisé le fait d'être complètement un membre des communautés noires, donc, c'est-à-dire engagé dans la communauté et travailler pour l'ensemble des Québécoises et des Québécois. Il n'y a pas de paradoxe, il n'y a pas d'antagonisme. Et ça, je pense que c'est important d'avoir ces ancrages-là, des ancrages très forts. Parce que quand on a des ancrages forts, on a ce qu'on appelle en anglais le backbone. On a une colonne vertébrale qui peut nous soutenir, nous appuyer. Mais aussi, il y a des espaces aussi que, dans le cas de mes consoeurs, je les encourage à investir, des espaces de partage. C'est pas facile pour les femmes en politique. C'est très difficile pour les femmes en politique. Je regarde, par exemple, ce que nous avons réalisé à Montréal au cours des 10 dernières années comme travaux, comme chantiers pour améliorer la représentation des femmes dans l'espace public, au conseil municipal. Je regarde tout le chantier en cours. Il y a un chantier qui s'appelle « Femmes et politiques » à l'Assemblée nationale, donc où on travaille sur ces enjeux-là. Mais moi, j'encourage mes sœurs issues des communautés noires à investir ces espaces aussi de dialogue, de réseautage aussi. C'est important. Donc, et tout en s'assurant aussi de continuer à avoir leur ancrage dans leur communauté noire aussi. C'est important. Quand vous portez un dossier, que les gens sachent que...
Vous l'assumez.
Vous l'assumez. Et... Mais je constate, comme toi, Cyril, au cours des dernières années, la patinoire n'a pas été tendre. Le jeu de glace n'a pas été tendre pour nos sœurs des communautés noires. Et ça, je crois qu'il faut totalement le déplorer.
Monsieur le député de Viau, merci. Merci d'être venu nous parler un peu. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu l'occasion de se parler. Je voulais un peu savoir ce qui se passe depuis justement que tu es assis sur ce fauteuil de vice-président de l'Assemblée, être moins présent, comprendre aussi voilà, quel était le travail, en quoi ça consistait. Viau, bien évidemment, on sait et on voit tout ce que tu y fais. Donc vraiment très heureux que tu aies accepté de nous parler, puis de prodiguer comme toujours quelques petits conseils qui peuvent aider les uns et les autres qui veulent s'impliquer. Ce que je retiens, c'est qu'il ne faut pas cesser de s'impliquer, il ne faut pas cesser de s'engager.
Absolument. Je te remercie énormément. Ça passe toujours trop vite.
Toujours trop vite. Je ne peux que dire merci.
Alors, dans quelques mois, on se reparle. Pour parler d'autre chose.
D'accord.
Beaucoup plus intéressant encore.
D'accord. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci. Mon nom est Cyril Ekwala.